France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Lamine Amarhodja. Alors j'ai lu votre livre avec attention et je l'ai trouvé vraiment très éclairant. Et ce qui m'a particulièrement plu, c'est cette tentative d'essayer de trouver votre chemin au sein du brouillard, comme vous dites, qui entoure les relations franco-algériennes, parce que ça m'a beaucoup parlé.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Mémoire littéraire, mémoire historique vont de pair aujourd'hui dans votre book club et les deux chemins se confondent sur le GPS algérien que nous propose d'utiliser le cinéaste et auteur Lamine Amarhodja. Il a fait paraître un petit essai pour se repérer au milieu du brouillard de certaines grandes questions qui l'agitent et agitent l'espace intellectuel des deux pays. Peut-être que les points bleus qui clignotent sur la carte s'appellent Kateb Yassim, Mohamed Dib, Assia Djebar, William Faulkner ou Fyodor Dostoïevski. Disons que la littérature est ce qu'elle permet de nuances, de précisions, de zones grises et de pensées, est l'une des boussoles choisies par l'auteur pour remédier à trop d'approximations, de clichés, d'amnésie et de malaise qui rendraient selon lui la place de certains écrivains algériens impossibles ou très coûteuses à trouver. Lamine Amarhodja est notre invité. Ensuite, on parlera littérature jeunesse avec Mathilde Wagman et certains enfants qui ont du mal à jeter certains objets. En fin d'émission, on demandera au GPS de nous guider vers la musique pour le grand jeu des pages musicales. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Lamine Amarhodja.
Bonjour Marie.
Votre livre, petit essai couleur orange, apparu donc chez deux maisons d'édition, Motif et Terrasse, et il s'appelle « La partie immergée de l'iceberg », sous-titre « Éloge du GPS algérien ». C'est un livre où il est beaucoup question de littérature, je l'ai dit, même de littérature comme boussole, même de littérature comme lumière au milieu du brouillard. Finalement, vous y apparaissez en tant que lecteur, et c'est très beau la manière dont vous nous proposez de vous suivre sur la carte de vos propres lectures. Mais on va réserver ça pour tout à l'heure, ce sera le cœur de notre conversation. Essayons de rembobiner le fil, comme on fait en début d'émission, en proposant un portrait de nos invités en tant que lecteur. Est-ce que vous pouvez nous décrire le paysage, si vous en souvenez, le moment, et peut-être les gens qui sont autour de vous quand vous apprenez à lire, si vous vous souvenez de ça?
Alors quand j'apprends à lire, je saurais pas vraiment vous répondre. C'est extrêmement flou. Ça remonte à il y a trop longtemps. Mais par contre, non, je me souviens de, enfin, les premières lectures. Alors, pour moi, elles sont plutôt associées à Lucky Luke, à des choses comme ça, des, okay, BD, plutôt des BD, je dirais. Mais c'est vrai que la lecture, ça. J'ai quand même le sentiment que pour moi, ça a commencé un peu tardivement, quoi, plutôt en arrivant en France. Mais
vous arrivez en France à quel moment ?
À l'âge de 19, pratiquement 20 ans. Mais quand même, il y avait des livres à la maison. Mm-hmm. Il y avait des livres, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais disons, comme on dirait qu'il y avait la télévision ou la petite table, quoi. Mm-hmm. Mais j'ai vu mes parents lire aussi.
Vous vous souvenez quoi ?
Je sais que mon père était un grand fan de Dostoïevski, pour le coup. De la littérature algérienne, oui, Mimouni, enfin les choses qui sortaient au fur et à mesure, dans les années, à partir des années, je dirais 90. Mais non, je saurais pas vous dire là, non.
Mais ça veut dire que pendant les 20 premières années de votre vie, le livre ou la lecture occupe assez peu de place. Par exemple, il y a ce petit clin d'œil Lucky Luke, donc la bande dessinée. Et sinon, c'est pas trop là que va votre énergie ou votre intérêt.
Non, parce que je sais pas. Mais par contre, il y avait quand même une aura autour du livre, c'est-à-dire plutôt du côté de mon père, je dirais un peu plus, où il y avait quand même quelqu'un qui lit était plutôt bien vu, quoi. Mmh. Et puis on nous disait quand même à la maison, il faut lire. Le problème, c'est que
c'était argumenté ou c'était juste il faut lire.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que cet il faut était pas très convaincant, quoi, parce que par rapport à ce que proposait la rue, enfin ou l'extérieur, que ce soit la plage, le soleil, les filles, le farniente, enfin c'était pas très convaincant, quoi.
Dans la balance, ça pesait pas hyper lourd, quoi.
Non, pas trop. Mais je dirais, enfin, et du coup, vers l'âge de 19 ans, en arrivant, en fait, vraiment, c'est le fait de se retrouver, du coup, dans un autre pays, et puis de voir des gens lire dans le métro. Mais c'était avant les smartphones, pour le coup. C'était pas il y a si longtemps, mais il y a 20 ans, mais quand même, ça a quand même beaucoup changé. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussé intuitivement à me dire, bah, peut-être qu'en allant piocher là-dedans, je pourrais un peu mieux comprendre là où je me trouve. Quoi. Et ça a commencé un peu comme ça. Mais quand ça a commencé, c'est devenu vraiment maladive, quoi. Mais un truc un peu déséquilibré, je dirais. Presque un peu hystérique. Du coup, j'ai vraiment eu le sentiment que pendant, je dirais, à peu près une quinzaine d'années, j'ai pratiquement négligé ma vie pour lire, quoi. Ça a été un peu, ouais.
Mais quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y avait aussi l'idée de pouvoir lire l'espace dans lequel vous arriviez et que dans cette nécessité de déchiffrer cet espace-là, l'idée c'était que peut-être vous trouveriez de l'aide du côté des livres.
Je me le formulais. Je pense qu'il y avait, oui, une façon de c'est quand même nébuleux. Je me le formule aujourd'hui un peu comme ça parce que je trouve ça aussi assez joli. Mais c'est vrai que c'est j'ai quand même le sentiment que oui, il y avait l'idée que en lisant ce que lisaient les gens autour de moi, dès que j'entendais je sais pas, par exemple, je me souviens, quelqu'un avait dit voyage enfin Céline ou voyage au bout de la nuit, je me souviens, j'étais rentré, je savais même pas si Céline était un homme ou une femme.
C'est vrai, ça peut prêter à confusion.
Et je lisais ça et du coup je lisais un peu tout ce qui me tombait un peu autour et enfin et oui, peut-être que ça permet de déplier, c'est assez joli comme idée en tout cas.
Il y a quelque chose que vous racontez dans votre ouvrage auquel on va consacrer le reste de la conversation, c'est l'imaginaire avec lequel vous arrivez en France, justement, à l'âge de 19-20 ans, et vous dites que c'est beaucoup passé par la télévision, rejoindre la France, c'était presque entrer dans un écran, évidemment de manière fictive et avec quelques déconvenues. La place qu'occupait le livre ou la littérature dans cet imaginaire-là, elle était effective, cette place ? C'est-à-dire, dans le grand imaginaire, la France, avec des guillemets que vous rejoigniez, il y avait des livres dedans ?
Pas tellement, je dirais pas ça. Et je pense que c'est aussi une des grosses différences entre la génération, je dirais, de mes parents et la mienne. Parce que quand j'ai commencé un peu à réfléchir un peu dans la première partie que je n'ai pas écrite tout de suite, en fait, qui est la partie la plus autobiographique du livre... Et je me suis rendu compte que il devait y avoir pour mes parents, puisqu'il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les écrans, et il y avait
un peu de radio quand même.
Oui, peut-être la radio. Ouais. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est une question qui est liée aux images, quoi. C'est vraiment. Et je me suis dit quand même quelqu'un qui doit lire, il doit avoir, il doit développer un imaginaire autre que ma génération, parce que c'est vrai quand j'ai commencé à réfléchir un peu à l'idée que je me faisais de la France, un peu, de façon un peu plus précise, la première chose, j'allais dire la première image qui est venue, la première chose qui est venue, c'est vraiment la télé. Et je m'en souviens vraiment, je pense que ça m'a fait le même effet que quelqu'un qui a dû voir, je sais pas, le premier pas d'un homme sur la Lune, ça a été vraiment, je m'en souviens de façon extrêmement précise.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je me souviens de la première image, par exemple, qui est apparue. Je me souviens du nom de l'animateur. Je me souviens du nom de l'émission. C'était un truc sur TF1, un jeu télévisé, comme ça. Et si je me souviens de façon aussi précise, c'est que c'est un événement marquant. Ouais. Et je pense que moi, je pense que la télé, vraiment, l'arrivée de la télé a créé une espèce de moi, je pense vraiment de cassure anthropologique entre, dans l'imaginaire, en tous les cas, dans la représentation, dans l'idée qu'on se faisait, de l'étranger, et particulièrement de la France, puisque les premières télés qui sont arrivées, c'était les télévisions françaises. Et puis les images, je crois, ne fonctionnent pas comme les mots. L'imaginaire qu'on se crée à travers les mots est complètement différent. Là, il s'agissait d'images, pour le coup, de la télé. Donc, c'était plutôt des images aplaties, et plutôt lisses. Si on compare à l'imaginaire qu'on peut se créer, par exemple, en lisant Balzac, avec des personnages torturés. Du coup, l'idée que je me suis fait des Français était plutôt télévisuelle et forcément lisse, quoi, parce que passer par la télé.
Oui. Il est beaucoup question justement de comment on peut se représenter l'autre et comment on peut se représenter soi-même à soi-même dans votre livre. Est-ce que vous pensez que les livres, et donc là on bascule au lecteur que vous êtes devenu, voilà, bien des années plus tard, est-ce que les livres c'est un bon outil pour se représenter soi-même, pour se penser soi-même?
En tous les cas, Pour ma part, ce qui m'a élargi mon identité, mais au sens généreux du terme plutôt, ça a été vraiment la littérature algérienne, c'est clair. Il y a quelque chose qui ça m'a sorti un peu de mon expérience étroite, quoi, de mon expérience de quartier, lycée, vie de famille un peu. Et ça m'a, d'une certaine façon, permis de déplier à la fois un territoire, pour le coup imaginaire, et mais aussi de voir qu'il y avait une façon, puisque d'une certaine façon, l'idée que je me faisais de l'Algérie, c'était...
En y vivant.
C'était vraiment mon expérience personnelle, intime, mes parents, le cercle...
Mais comme de bien entendu, c'est-à-dire comme n'importe quel enfant qui grandit dans un environnement, non?
Oui, tout à fait. Mais je pense que... Je crois qu'il y a toujours un moment où on comprend que le monde nous dépasse. C'est douloureux, mais ça arrive quand même.
Mais ça peut faire du bien, par ailleurs.
Oui, je pense que c'est assez salutaire, à vrai dire. Mais c'est vrai que la question a commencé quand je suis arrivé en France, parce que j'ai rencontré beaucoup d'amis qui étaient étrangers, pour le coup espagnols, italiens, etc. Et je voyais, forcément, dans les discussions, ça revenait souvent. Alors, comment vous êtes en Italie, comment vous êtes en espagnol, qu'est-ce que c'est, etc. Enfin, on discute les cultures, non, etc. Et les habitudes. Et je voyais que ils étaient pratiquement tous littéraires. Tout mon entourage, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je pense que c'était la cité universitaire où j'étais arrivé. Et j'ai vu à quel point les livres leur permettaient d'avoir une culture un peu plus élargie que la culture personnelle. Et du coup, c'est vraiment en voyant un copain un italien qui était en train de lire Dante que je me suis dit que ce serait pas mauvais que je jette un coup d'œil à Cattabiassine. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et le paradoxe, c'est que j'ai lu la littérature algérienne, du coup, en France, quoi. Et c'est là que les problèmes ont commencé, d'une certaine façon.
Mais c'est des problèmes que vous rendez très fertiles dans votre petit essai. Et on va y venir, parce qu'en effet, lire la littérature du pays que vous veniez de quitter a comme chamboulé la carte, le territoire de réflexion. Il est aussi beaucoup question du brouillard et de la brume et de la possibilité de s'orienter. Ça aussi, on va y venir... Dans un instant, il se trouve qu'on peut considérer qu'on vit une époque contemporaine, peut-être comme toutes les époques contemporaines, mais où il y a pas mal de brouillard et où c'est pas hyper simple de trouver ses coordonnées politiques, personnelles, identitaires, si on cherche ça. Même question, est-ce que vous considérez que les livres, en ce genre de temps, sont des bons guides ? Ou c'est leur faire trop de publicité ?
Je trouve que ça a double tranchant, cette histoire. Bien sûr, évidemment, que je défendrai les livres, que c'est vraiment... moi, ça m'a vraiment servi de boussole, ça m'a permis d'avoir une perspective historique, géographique, ça m'a... Enfin, c'est clair que pour moi, ça a été vraiment un guide, mais... Il y a aussi, je pense que ça peut aussi, à mon sens, après tout, les livres sont, enfin, les écrivains ou c'est une façon de véhiculer des idées, des livres. Donc, si à partir du moment où on véhicule des idées, c'est forcément à double tranchant. Ça peut être des bonnes et des mauvaises idées.
Et puis, il y en a ailleurs.
Ailleurs, c'est-à-dire.
C'est que si vous, votre idée, c'est que on s'oriente parce qu'on écoute des gens qui véhiculent des idées, auquel cas on peut trouver des idées dans le cinéma, dans la conversation, dans les arts. Il y a quelque chose aussi de votre livre qui dit de la lecture que ça a été littéralement, vous le dites, un phare dans la nuit. Mais j'ai aussi l'impression que, par exemple, vous racontez beaucoup de choses sur vos histoires d'amour, vos histoires d'amitié, sur le bain politique qui a été Paris pour vous. Enfin, j'ai quand même l'impression que, au même titre que les livres, il y a tout ça.
Oui, je suis complètement d'accord. C'est qu'en fait, disons que une bonne lecture, pour moi, un bon rapport au livre, ce serait un rapport articulé à la vie. Et que c'est là où les livres deviennent intéressants, ils deviennent vivants. Et c'est pourquoi que, en fait, je me suis rendu compte, par exemple, là, en parlant de Cattabiassine, d'Ibn Jabbar, que j'ai sollicité ici, à quel point d'une certaine façon, ils sont comme devenus des musées ou des armoires vides ou des chambres vides ou des institutions. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils n'auraient pas voulu devenir, non? Et quel écrivain voudrait devenir une institution? Et je pense que la seule façon, à mon avis, de les réactiver, c'est d'en faire des lectures dynamiques et en les articulant à sa vie. Et c'est là où les livres deviennent intéressants, non pas les sortir d'une sorte de piédestal, mais les rendre vivants, en fait, les frotter à la vie. Ouais.
Et c'est exactement ce que vous faites dans la partie immergée de l'iceberg. On va en parler dans un instant. Tout récemment, chez nos collègues de la super émission À la régulière sur France Inter de Mehdi Maizi, est passé un jeune artiste franco-algérien qui s'appelle Danil, avec un titre qui s'appelle Brouillon. Et il résonne tellement avec les thématiques de votre livre et de l'émission du jour. Je pense qu'il a une petite vingtaine d'années, ce jeune homme. Donc c'est pas tout à fait votre génération, mais on résiste pas du tout à la diffuser. Merci beaucoup à l'équipe de La Régulière de avoir partagé l'enregistrement live avec nous. Il dit... Rien que je me pose des questions, faut que je rentre à la maison, mais la maison c'est où? Je suis entre deux lignes, j'écris pile au milieu, c'est brouillon, mais c'est nous.
J'ai grandi quand les rebeux c'était pas la mode. J'étais frais jusqu'en 2001, puis je suis devenu moche. Je voulais plus écouter Dry, je voulais écouter Con. J'imitais l'accent de mon vieux pour faire rire l'école. Même quand j'avais rien fait, j'avais peur de monsieur l'agent, qui m'a dit dans les yeux qu'il voulait que je quitte la France. Me renvoyer au plaid alors que je parle même pas la langue, car mon père pensait que pour m'intégrer fallait pas me l'apprendre. Ah, rien que je me pose des questions, faut que je rentre à la maison, et la maison c'est où? Je suis entre des lignes, j'écris pile au milieu, c'est brouillon mais c'est nous. Rien que je me pose des questions, faut que je rentre à la maison, et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place, ni d'ici ni de là-bas, c'est brouillon mais c'est nous. La honte, je comprends un peu mais je parle pas bien la langue. La honte, la honte. Ah bon, t'es surpris que j'ai fait des études, pourquoi? Raconte, bah alors, ça compte depuis l'époque de la marraine. Rien n'a changé, c'est pareil. Pour qu'on m'aime, y'a que deux choix. Soit je marque des buts, soit je les fais marrer. Quand je parle bien, je suis invendu. Quand je dis ouais, je fais la cité. Aujourd'hui c'est brouillon, demain c'est bien dessiné. J'avais honte, je ramenais jamais de meuf chez moi. J'avais peur qu'elle tombe sur ma cousine ou ma mère, ma sœur, mon frère, la voisine d'en bas, la caissière, le maire. Oh, oh, oh. Je me pose des questions, faut que je rentre à la maison, et la maison c'est où? Je suis entre deux lignes, j'écris pile au milieu, c'est brouillon mais c'est nous. Et je me pose des questions, faut que je rentre à la maison, et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place, ni d'ici ni de là-bas, c'est brouillon mais c'est non.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un jour sur un banc à Paris, votre cœur se serre d'un coup et très fort. Vous venez d'écumer toutes les bibliothèques publiques de la ville à la recherche du premier livre du grand auteur Kateb Yassin, mort en 1989, une petite plaquette de poèmes. Et quel que soit le quartier, quel que soit le catalogue, le livret reste introuvable. Et vous savez qu'en Algérie, pour des raisons probablement politiques, il sera introuvable aussi. Vous avez une vingtaine d'années, Lamir Amar Khodja, et le vertige est immense. Ce vertige est la forme creuse de l'oubli, de l'enfouissement de tout un patrimoine littéraire sur lequel il vous paraît alors impossible de vous orienter, donc de créer. Dans le petit ouvrage paru tout récemment, vous proposez de rouvrir les laboratoires littéraires et vivants que sont les œuvres de Mohamed Dib ou Assia Djebar pour trouver, écrire et parler enfin votre propre langue. Traverser les déserts, en finir avec la honte et reprendre la conversation là où Kateb Yassin l'avait laissé dans sa lettre adressée à Albert Camus en 1961. Je cite « Il est peut-être urgent de remettre en mouvement les ondes de la communication avec l'air de ne pas y toucher qui caractérise les orphelins devant la mer, jamais tout à fait morte. » La partie immergée de l'iceberg, éloge du GPS algérien, c'est cet petit essai extraordinairement stimulant. publié aux doubles éditions, édition Motif et édition Terrasse, et préfacé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par le grand historien Todd Shepard. Peut-être un mot sur la forme que prend ce livre. Je dis essai parce que j'ai pas d'autres mots, mais disons c'est un livre très personnel où se mêlent des considérations sur l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la France, la mémoire littéraire, et puis peut-être aussi une forme de récit personnel. Est-ce que vous voulez dire un mot sur justement cette forme-là ? Parce que je trouve que c'est aussi comme un mode de connaissance particulier qui est cette écriture-là.
Oui. Et je ne sais pas si je peux vraiment vous répondre à la question, parce que c'est la chose à laquelle j'ai moins réfléchi. J'ai commencé à écrire, je ne voulais pas tellement écrire un livre en vrai.
Je trouvais ça vraiment pas ouf d'écrire un livre.
Ça ne m'a pas tellement effleuré. Mais disons que vraiment j'ai commencé à écrire pour essayer de sortir du brouillard, quoi, pour me clarifier les idées sur des choses qui agitaient l'actualité. Et presque spontanément, je dirais, pour mettre un peu de perspective, j'ai commencé un peu à développer un peu plus en réfléchissant avec Dib, Kateb, etc., pour mettre un peu de temps, un peu de durée.
D'épaisseur, quoi.
D'épaisseur, historique. Voilà. Ça permettait de... C'est très compliqué, je trouve, d'y voir clairement dans le présent sans jeter un petit coup d'œil en arrière. Non pas pour s'engluer, mais juste pour avoir un peu de perspective et se projeter. Et d'autant plus que j'ai le sentiment qu'on est un peu dans une époque où il y a tout le temps des tentatives de faire table rase du passé ou de vivre uniquement dans le présent. On est trop dans l'actualité, je trouve.
Donc, et alors ce présent qui était brumeux pour vous, c'était quel présent ? On est à quel moment quand vous commencez d'écrire pour vous faire quelques idées claires sur des grandes questions qui vous agitent ?
Je dirais que l'élément déclencheur, ou enfin qu'il y a, c'était plutôt les discussions qu'il y avait autour de Kamel Daoud et Bolam Sansal. En fait, et je trouvais...
À quelle époque ? Donc, qu'ils ont bougé sur l'échiquier quand même littéraire et médiatique ces dernières années.
Exactement, et je dirais que ça a commencé plutôt avec la remise du prix Goncourt à Kamel Daoud.
Ah, donc assez récent, plutôt l'année dernière.
Ouais. C'est ça, exactement. Et j'étais un peu étonné du fait que, en fait, on n'arrivait plus à se parler, même, je veux dire, entre amis, et que c'était devenu un peu soit des, chacun essayait en fait de régler des comptes et je trouvais que la discussion pouvait être approfondie parce qu'il m'a semblé que
Est-ce que vous pouvez quand même faire un bref on va dire exposition des coordonnées de cette discussion,
oui,
dans laquelle vous aviez l'impression, vous, Lamine Amarhodja, de ne plus pouvoir parler?
Oui, ben en fait le fait c'est que avec l'obtention de, enfin, le prix Goncourt donné à Kamel Daoud, c'est vrai que du côté algérien il y a eu une espèce de disons une pluie d'insultes, pour le simplifier.
Qui tombait sur lui.
Oui, qui tombait sur lui, le traitant de traître et de tous les noms, etc. Et du côté français, c'était le fait de lui donner le prix le plus important, le prix littéraire le plus important en France. Mais pour ma part, j'estimais que ce qu'il représentait était beaucoup plus, c'était beaucoup plus intéressant de l'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que des deux côtés, est-ce que ça fait cet effet-là. J'ai commencé un peu à vraiment essayer de comprendre un peu plus précisément les positionnements, les tournures d'esprit, les positionnements idéologiques, etc., de Kamel Daoud. Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir un peu plus, de façon plus profonde sur la littérature algérienne. Et de s'en rendre compte, en fait, qu'en parlant de littérature algérienne, forcément, la littérature parle du monde qui l'entoure, que ça allait forcément déborder sur les relations algéro-françaises, puisque... Les écrivains dont j'ai plutôt parlé, c'était plutôt des écrivains francophones. Donc, c'est des écrivains qui traditionnellement publiaient en France, même avant même, je veux dire, la 1962, avant l'indépendance de l'Algérie. Et donc, il y a une tradition extrêmement forte qui a perduré après 62. Et c'est en mettant un peu de durée, parce que En fait, l'idée, c'était de, en mettant de la perspective, disons, c'était plus facile, je dirais, d'analyser un peu en quoi est-ce que Kamel Daoud est devenu une espèce de symbole, disons.
De symbole de quoi pour vous ?
De symbole sur lequel se reflètent tous les malentendus qu'il y a entre les deux pays, en fait. Et que ça soit littéraire ou politique, disons, puisque, encore une fois, la littérature est extrêmement liée à la politique, au monde qui l'entoure, donc... Donc c'était ça, il fallait analyser ça, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça m'a tout de suite amené, probablement parce que la littérature est une histoire de pronoms, c'est un endroit de l'intime, c'est là où on dit « je », mais tous les écrivains ne parlent jamais uniquement que de leur vie, ils parlent aussi de la vie des autres. Et je pense que les bons écrivains sont ceux qui arrivent à trouver un équilibre entre soi et le monde extérieur, et c'est pour ça qu'il nous parle, en fait. Et donc si vous voulez, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait eu des cassures entre le jeu et le nous, qui sont arrivées à travers Sansal et Daoud, ça m'a aussi amené, d'une certaine façon, à clarifier, moi, ma position. Et c'est ce qui a amené un peu la partie autobiographique, la première partie.
Est-ce que vous pouvez dire quelques mots, justement, de cette première partie autobiographique ? Vous citez notamment la place importante donnée à votre oncle, qui parle de la jeunesse, qui dit « le vent qui vient les emporte », comme des petits fétus de bois. Comment est-ce que... on va dire votre positionnement, pour le coup, intimité que vous discutez et que vous replacez dans l'histoire de l'Algérie, elle aussi, et la possibilité de l'intimité que vous replacez au vu de l'histoire contemporaine de l'Algérie et de la colonisation française et de la guerre pour l'indépendance, vous dites qu'il n'est pas facile de brasser de l'intimité dans l'écriture, et pourtant vous le faites et vous dites c'est précisément en le faisant qu'on se donne des outils de pensée.
C'est exactement ça. Je pense que c'est le fait d'écrire en ayant en conscience de ça, que la littérature est un placement entre un je et un nous, et qu'il faut tout le temps redéfinir, en fait. Je suis arrivé à me créer une place. C'est vrai que l'intime entre l'Algérie et la France n'est pas du tout perçu de la même manière. D'une certaine façon, l'intimité en Algérie est encore quelque chose à conquérir. Voilà, merci. Et la place de l'individu dans la société algérienne est encore à repenser en profondeur. Et il faut s'imaginer que l'Europe a mis des siècles à stabiliser cette question de l'individu, de l'autonomie, etc. Qu'il y a une tradition extrêmement forte, quoi, qui date de la Renaissance, et que en Algérie, il n'y a pas encore cette tradition. Donc, parler en son nom, affirmer sa subjectivité, il y a déjà quelque chose de subversif là-dedans. Maintenant, quand on le fait, ce qui est difficile, c'est justement de garder l'équilibre entre prendre sa place, mais que ça ne soit ni au détriment des autres, ni contre les autres.
Ni au nom d'eux. Ce que vous racontez aussi, notamment en étudiant, selon vous, le positionnement de parole, mais aussi, et ce serait intéressant d'y consacrer plus de temps, la réception médiatico-politique de ces deux figures d'auteurs dans l'espace médiatique français, c'est que d'un seul coup, vous dites aussi que et Kamel Daoud et Boualem Sansal faisant usage de cette nouvelle place de la prise de parole en jeu, ou bien dans des éditos, ou bien via la littérature, devenaient des représentants d'eux, en tout cas regardés ou écoutés comme ça, mais selon comment ils étaient lus ou perçus, ça contentait certains et fâchait beaucoup, mais ça on peut dire que c'est le lot de n'importe quelle personne qui s'avance avec des idées.
Oui, d'une certaine façon, je suis d'accord. Le problème, c'est que quand les idées sont des idées de droite et d'extrême droite, c'est-à-dire que c'est des idées contre lesquelles, en fait, peut-être leurs parents se sont battus, se sont construits. Il faudrait ajouter que vous avez affaire à une histoire de domination culturelle, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà un discours qui est préconçu sur l'Algérie en France. Maintenant, positionnement des écrivains algériens qui publient en France traditionnellement a toujours été. Il faudrait à la fois être critique envers la politique intérieure en Algérie, mais en même temps ne pas reproduire les discours de domination extérieure qui venaient évidemment de la colonisation traditionnellement. Le problème, c'est quand vous commencez à reprendre exactement les discours de domination et que vous entrez dedans, il y a quelque chose, une cassure qui est, à mon sens, arrivé avec les deux auteurs en question et qui est intéressante à observer.
Vous parlez de malentendus, de paradoxes. Ce sont aussi des mots qui sont utilisés par Kateb Yassine dans cette archive de 1971. Je rappelle que Kateb Yassine est mort en 1989.
Un problème, qui semble inexistant, mais qui est énorme, c'est que j'écris en français, on me crée le plus souvent en français, mais mes auditeurs, mon public, ce sont des gens de langue française, ce qui fait à peu près, dans toute l'Afrique du Nord, au grand maximum 10 000 personnes. Bien, je veux sortir de ce cercle de lecteurs privilégiés, je veux sortir de ce cercle de 10 000 lecteurs, et je veux trouver mon public naturel. Le trouver, ça veut dire pouvoir s'exprimer librement, être édité, etc. Et voilà que la contradiction, loin de se résoudre, devient encore plus cuisante pour l'écrivain. Parce qu'il a un éditeur français, il a des lecteurs français, il a un gouvernement algérien, et il a un peuple algérien. Il faut naviguer entre ces quatre écueils. Bon, écueil, pas pour le peuple. Le peuple, lui, n'est pas un écueil. Mais enfin, il l'est dans la mesure où, pour le moment, il n'est pas inséré. C'est-à-dire, le peuple n'intervient pas encore dans le combat. Il faut ouvrir une voie pour s'en faire un allié, pour aller vers lui. Et il y a un obstacle, un double obstacle matériel, moral et politique. Alors c'est dans cette difficulté-là que se débat un écrivain algérien.
Alors, on est en 1971, c'est à la fois un tout autre espace-temps que celui dans lequel vous écrivez et réfléchissez, Lamine Amarhodja, et en même temps, il y a des choses qui sont dites ici par Kateb Yassine que vous reprenez à votre compte et dont vous dites que on n'est pas complètement sorti, et je dis un « on » là pour le coup algéro-français, parce que vous créez quand même un espace de réception intellectuelle qui va de part et d'autre de la Méditerranée. Vous dites qu'il n'est pas possible de poser la question « pour qui est-ce que j'écris ?» en se départissant de la dimension politique de « pour qui est-ce que j'écris ?» notamment quand des artistes, écrivaines et écrivains algériens, écrivent en français.
Oui, tout à fait. En fait, l'espace de réception pour les auteurs algériens est vraiment, en tous les cas, francophone, puisque le français est de plus en plus grignoté en Algérie, déjà, il y a politiquement, c'est clair, il y a une orientation, et puis aussi, les jeunes sont de plus en plus soit arabophones, soit anglophones. Mm-hmm. L'anglais gagne de plus en plus de terrain. En vérité, là aussi ça fait partie du brouillard algérien, c'est qu'on ne sait pas précisément ce que lisent les gens, parce qu'on n'a pas de données précises là-dessus, quoi. Donc on devine, c'est toujours un peu impressionniste, etc. Mais ce qui est beau, justement, dans ce que vient de dire Kateb Yassine, c'est que persiste la volonté de créer une troisième voie. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut retenir, et c'est que il ne faut ni reproduire les systèmes de domination interne, ni les systèmes de domination externe. Il faut créer sa première voie, et ça ne peut passer que par la réflexion, quoi. Il faut se trouver une place, quoi.
Ça passe notamment si on vous suit et si on l'écoute, lui, à quelques décennies d'intervalle, par la question de la langue, mais j'ai l'impression, à vous avoir lu Lamine Amarhodja, que ça ne peut pas être tout à fait réductible à écrire ou pas en français, ou publier ou pas en français. J'ai l'impression que dans cette troisième voie, par exemple, vous excluez l'idée, non pas qu'il soit légitime de le faire et de décider qu'on publiera plus qu'en anglais ou plus qu'en arabe, mais qu'en tout cas, une troisième voie, ça pourrait être genre continuer à écrire et publier en français ce que vous faites. mais dans un espace critique de ce français.
Oui, parce qu'en fait, je ne crois pas que le fond du problème, ce soit la langue, au fond. Au fond, je ne pense pas que ça soit le problème. D'ailleurs, la question s'est posée, s'est posée dans le passé. Assad Jebbar a continué, par exemple, à écrire en français. Et pour elle, la question n'était plus, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était vraiment de pouvoir se dire pleinement, sans reproduire les mécanismes, c'est-à-dire les trouver d'une certaine façon plonger en soi, en essayant de se débarrasser des représentations toujours réductrices qui ne sont pas que du côté français. C'est ça qui est un peu douloureux en fait à comprendre, c'est que les représentations réductrices se trouvent aussi du côté algérien.
Oui, en même temps, vous faites aussi une analyse très politique de la honte de soi dont il est question dans votre livre, c'est-à-dire que la plongée en soi, elle doit faire face à de nombreux obstacles, notamment des héritages de représentation de soi-même, dont vous dites, sans en faire le seul ingrédient, mais que la colonisation, le cassage de certaines structures très profondes et très historiques de la société algérienne, la manière dont elles ont été brisées à plein d'endroits, y compris sur des questions de transmission, fait que la plongée en soi, elle est difficile, douloureuse, semé d'obstacles, semé d'embûches.
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est ancré. En fait, il y a des obstacles qui sont ancrés même dans l'intimité des individus. Et c'est là où je pense que la littérature a un rôle primordial à jouer, parce que la littérature est le lieu de l'intime par excellence. Enfin, c'est là où on va creuser en soi et trouver ce qu'on est pleinement, et souvent, j'allais dire à ses dépens. Mais c'est vrai qu'écrire, c'est quand même parcourir un mois qu'on découvre, quoi. Et c'est un lieu de libération inouï. Et c'est là où c'est beau de faire des lectures du passé. Je pense que personnellement, les années 90, pour ma part, puisque moi j'ai grandi dans les années 90, ont été d'une certaine façon une espèce de remise à zéro des compteurs en Algérie. C'est comme si nous étions revenus en 1962 et avec cette nouvelle donne.
De quel point de vue vous dites ça? Revenu en 62,
c'est-à-dire les questions auxquelles on a dû se poser, à savoir, et à mon avis, la grosse question qui traverse à la fois la littérature algérienne et la société algérienne, c'est de savoir qui nous sommes. Et puis de se demander c'est qui le « nous » Quel « nous » on met en œuvre? Et c'est là où il faut se réapproprier sa propre culture. Et c'est là où la littérature, où il y a des réponses qui ont été apportées par les aînés. Et je crois qu'ils n'ont jamais été autant d'actualité. C'est-à-dire que si eux ont dû, d'une certaine façon, défricher, disons, le terrain, qui était fait de hiéroglyphes, de choses perdues, de choses qu'il fallait décrypter, etc. D'une certaine façon, le travail pour nous, enfin, je le sens pour moi fortement, mais je le sens aussi beaucoup de jeunes autour de moi, c'est de déchiffrer les hiéroglyphes qui sont devenus, eux, Kateb Yassine, Djebbar et Dib, par exemple, pour prendre
l'exemple. Alors, par exemple, vous citez en effet Mohamed Dib. Je voudrais juste dire que dans cette nécessité et, comment dire, la ressource qu'est la littérature dans toutes les questions que vous brassez là, vous élargissez à bien des égards le matrimoine ou patrimoine littéraire à d'autres champs. Par exemple, vous citez Dostoïevski et Faulkner, pas juste comme ça pour faire plaisir, mais simplement pour dire que parfois les zones grises, les zones brumeuses, les zones de noirceur dans lesquelles il faut plonger, il est intéressant d'aller les trouver ailleurs que dans, entre guillemets, sa propre histoire littéraire. Mais puisque vous parlez de hiéroglyphes, écoutons la voix de Mohamed Dib, cet auteur qui a accordé à France Culture en 1997 des entretiens à voix nue, où il parle, puisque vous utilisez la métaphore du GPS, du territoire très important du désert dans le pays algérien, et de ce que ça lui permet, lui, de penser.
Il y a une présence symbolique, emblématique du désert, comme page blanche. Et les écrivains maghrébins, en général, et les Algériens en particulier, ont toujours ce sentiment de partir de zéro. Leur généalogie commence avec eux. Oui. Et sur le plan littéraire aussi. Or, le désert appelle le signe. Il y a entre le désert et le cygne, une sorte de pacte qui les lie ensemble. Mais tout cygne qui a l'ambition de s'inscrire sur le désert est effacé à plus ou moins longue échéance, et très rapidement, et il faut recommencer. Et il y a ce sentiment assez lancinant chez les écrivains maghrébins de recommencer, de redire sous une autre forme. Si bien qu'on a le sentiment d'un retour constant du thème ou des thèmes, d'une reprise. C'est sûr que ce signe qui s'efface rapidement est une des hantises et une des obsessions, non seulement des écrivains, mais aussi des gens ordinaires.
Gardons encore devant nos yeux cette image du désert. Scrutons-la de plus près. Feuille blanche sur laquelle tout peut s'écrire et s'effacer l'instant d'après. L'effacement. Effet d'une intolérance à tout ce qui transgresse et ambitionne de laisser une trace. Produit aussi le désert. Le désert qui vit, qui bouge, qui marche, qui va, qui vient et qui repart, pour revenir sur ses pas et qui a partie liée avec le vent. Théâtre des marches caravanières, parcours du nomade. Il est lui-même caravane et nomade. Et que l'homme croit pouvoir y accéder aux arcanes de son destin, le désert le lui laisse croire. Il s'y prête, mais juste le temps qu'il se ressaisisse, ce laps de temps avant que l'effacement ne le rende à son silence, sa mutilité, à la seule parole du vent. Ce que n'oublient jamais les géomanciers quand ils vous prédisent votre avenir dans le sable. Avez-vous observé comment ils procèdent ? Une mesure de sable, ils la répandent entre eux et vous, l'étalent, puis de leurs doigts agiles, ils griffonnent des signes qu'ils annulent aussi rapidement du plat de la main pour recommencer, tout en murmurant des propos que vous avez peine à comprendre et à retenir. Que reste-t-il à la fin ? Un amas de sable revenu à son état originel, muet, mais sur le point de reprendre la parole, pour vous murmurer quoi ? La même chose. Pour vous apprendre que vous êtes vous. Cet abîme de l'essence, l'Algérien le porte en lui. Son imaginaire, sinon sa conscience éveillée, emporte l'estampillé.
C'est grâce à vous, Lamine Amarhodja, que j'ai été chercher cette prise de parole de Mohamed Dib en 1994. Sublime texte où il précise sa pensée sur le désert. Juste avant une archive de 97, je le disais, dans La Voix Nue. Puis vous-même, vous citez Mohamed Dib sur la place symbolique qu'il donne au désert. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est tout à l'heure, vous avez dit, en fait, il n'y a d'intérêt à lire les livres que s'ils sont articulés à la vie. Et là, je trouve que c'est comme s'il nous donnait un mode d'emploi, c'est de lire des livres, mais de lire la géographie aussi, et de faire de la question concrète du pays, de l'identité. Ok, donc c'est quoi ? Il y a du désert, et le désert, c'est quoi ? La hantise de l'effacement, la précipitation de l'inscription, le retour du même. Enfin, je trouve qu'il donne une piste vraiment incroyable, quoi.
Oui, il a eu une intuition de poète qui est venue assez tôt en vrai, hein, mais qui s'est développée petit à petit avec le temps et d'une certaine façon qui va lui donner, qui va guider un peu son œuvre, quoi. Il y avait un peu cette idée de signe, quoi, parce que pour lui, il en fait un peu les poètes arabes avaient un peu avait eu la même intuition, je pense qu'il a puisé là-dedans l'idée que les nomades, quand ils se déplacent dans le désert, laissent quand ils bivouaquent, ils laissent des traces et qu'il faudrait et que ça leur sert de repère en fait. Et Dib est peut-être celui de nos écrivains qui a eu un rapport le plus plastique aux arts, quoi. Il a connu Jean Sénac, qui a été un poète, un grand poète.
Que vous citez, ouais.
Oui, en exergue, pour le coup. Et Jean Sénac, qui était aussi poète, mais qui a aussi accompagné tous les poètes algériens. Il y a toute une école qui s'appelle les peintres du cygne. Et ils sont tous partis avec l'idée que les symboles soient, berbères, par exemple, etc. Enfin, que la signification de ces symboles s'est perdue. elle s'est perdue quelque part, des tatouages qu'on voit sur les mains des femmes, etc. Mais que le signe est là. Le signe est présent et qu'on peut tourner autour du signe pour essayer de guetter les traces, exactement comme les gens qui avancent dans un désert. Et ça a développé vraiment toute une école de peinture. Et Deep, je crois que c'est le pendant de ça dans la littérature. Il a, d'une certaine façon, à sa manière, répondu à la béance. Il y a une béance.
Il parle d'un abîme de l'essence, ouais.
Tout à fait. Il y a vraiment, c'est assez constitutif des arts en Algérie, c'est constitutif de la littérature algérienne. Il y a comme un trou qui s'est perdu, probablement à cause de la colonisation et de la cassure généalogique. C'est comme si vous étiez dans une salle de cinéma, vous regardiez un film et puis d'un coup, il y a un blanc. Ça dure quelques minutes et puis le film recommence. Et ce trou-là, d'une certaine façon, chacun va essayer d'y répondre à sa manière. Kateb Yassine en créant un mythe autour de Nejma, parce que le trou, il est aussi symbole de violence, parce que la généalogie cassée, il y a quelque chose qui s'est perdu en cours de route. L'idée, ce n'est pas de rechercher la généalogie, elle s'est perdue, mais de laisser signifier le trou et de tourner autour.
Et c'est pour ça qu'il fait pas seulement, comment dire, du désert, une sorte de métaphore de ce blanc, de cette violence, de cette coupure et déstructuration profonde de la société algérienne par la colonie française. Il dit, c'est là. C'est existant. Regardons ce que c'est pour nous. Et du coup, je trouve que c'est encore plus dynamique, de la même manière qu'il dit, c'est à la fois le passé, ce désert sur lequel on a inscrit des signes qui ont été comme soufflés par le vent, et en même temps, c'est les géomanciens qui nous annoncent le futur. Donc il y a quelque chose de pris dans un temps qui n'est pas du tout figé, en fait.
Exactement. Exactement. L'idée, c'est justement de ne plus s'engluer dans le trou ou d'être happé dedans. C'est d'en faire quelque chose. C'est de le rendre dynamique. Et c'est une proposition. Et c'est dans ce sens que c'est une proposition poétique extrêmement puissante.
Et d'ailleurs, c'est ça que vous proposez dans cet éloge du GPS algérien, au milieu de plein d'autres choses qu'on n'a pas forcément le temps de déplier et discuter aujourd'hui, c'est de dire, il y a des laboratoires, et des laboratoires poético-politiques, littéraires, qui ont été ouverts. Allons-y avec ce que nous sommes aujourd'hui, en 2025-2026. Vous parlez de Nejma, de Kateb Yassine, comme étant un endroit littéraire très très important. Il y a juste un petit passage, on n'a pas le temps de le lire dans la longueur, mais d'un des personnages qui dit à l'autre « Ce sont nos pères, certes, des ouèdes mises à sec au profit de moindres ruisseaux, jusqu'à la confluence, la mer où nulle source ne reconnaît son murmure, l'horreur, la mêlée, le vide, l'océan. Et qui d'entre nous n'a vu se brouiller son origine comme un cours d'eau ensablé, n'a fermé l'oreille au galop souterrain des ancêtres, n'a couru et folâtré sur le tombeau de son père. » Moi, ce que je trouve très beau aussi dans ce passage de Nejma, c'est l'idée que, comme vous le dites, c'est à l'intérieur et à l'extérieur, quoi. C'est pas que des questions géopolitiques.
Oui, c'est-à-dire ils ont répondu. En fait, le problème, c'est que si vous réduisez à la littérature, à la politique ou à la géopolitique, vous perdez. Si vous faites, disons, une lecture de Nejma à partir que de ça, je pense que vous gardez 5% du livre, quoi. L'idée, c'est d'en faire une interprétation poétique, mais la poésie est porteuse de politique, dans le sens où c'est une proposition sur le monde, c'est une interprétation du monde, et qui dit interprétation dit pouvoir, en fait. Et forcément, c'est politique.
Mais parce que en fait, dans...
ça, le...
oui, oui. Pas le... oui. Non, mais si, c'est juste pour poursuivre la proposition poétique que vous faites, c'est-à-dire que dans votre texte, il y a à la fois des coordonnées géographiques pour poursuivre la métaphore du GPS qui aide à se débrouiller dans le brouillard, mais il y a aussi des dates. Vous revenez notamment sur la date très importante qui a été évidemment pour la France, mais pas que pour la France, l'année 2015. Vous revenez sur, pour vous, une sorte de cassure de Nejma, de Kateb Yassine. À chaque fois, c'est comme si vous dites, voilà, allons voir dans ces endroits où ça s'agite très fort, quoi.
Oui, c'est-à-dire ce qui est assez puissant en fait dans les œuvres algériennes que j'ai mises en place, enfin que j'ai sollicitées, disons, c'est qu'en fait c'est cette capacité à se dire pleinement sans vouloir contredire. Et ça, j'ai trouvé, parce que, par exemple, je donne un exemple assez concret, quand Kamel Daoud écrit Meursault contre enquête ou Bolam Sansal 2084, ils partent de canons littéraires assez déjà établis. Et si vous reprenez un canon, et si vous reprenez ou si vous répondez à un canon, vous êtes déjà d'une certaine façon dans des rails qui ont été déjà préétablis pour vous. Or, la force, je pense, que des œuvres de Kateb Dib et Djbar, c'est que c'est des œuvres vraiment originales.
C'est-à-dire que ce n'est pas que des réponses.
Non, ce n'est pas des réponses. C'était une façon de se dire pleinement. Il s'agissait de voir des territoires qui n'avaient jamais été vus, de décrire des gens qui n'avaient jamais été décrits.
Vous parlez de l'aura étendue par Asia Djbar à des femmes qu'on n'avait jamais entendues.
Complètement. Ça a été constitutif pour elle, ce frottement avec les femmes. Ça a changé sa façon d'écrire. Il y a une Asia Djbar avant la rencontre, une Asia Djbar après, ça a vraiment changé, même son rapport au langage. Preuve que il faut à un moment descendre pour écouter ce qui se passe dehors. Moi, je trouve ça assez bouleversant parce que le fait d'aller vers les autres ne nous fait pas perdre notre jeu ou notre intimité. Au contraire, ça l'élargit et ça la rend généreuse. C'est ça, avoir une identité généreuse pour moi.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, on parle littérature jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous entendez nous parler d'une difficulté qu'éprouvent certaines personnes, et parmi elles les enfants, à se séparer d'objets aimés.
Oui Marie, vous le savez, vous qui me fréquentez quotidiennement dans le cadre du travail, j'ai moi-même quelques difficultés avec l'activité qui consiste à se débarrasser de certaines affaires, faire le tri entre celles qui sont encore utiles et les autres, renoncer à conserver un objet auquel on a tenu, mais dont il faut savoir se séparer, paraît-il, ne serait-ce que pour faire de la place. S'il vous arrive de côtoyer des enfants, vous avez probablement constaté que eux aussi ont du mal à jeter ou à donner telle poupée qui n'a plus ni yeux, ni bras, ni jambes, telle collection de cailloux ramassés sur la route il y a 5 ans. Cette difficulté est le cœur d'un album signé d'une autrice suédoise que je découvre et dont je vous conseille de retenir le nom. Le livre s'appelle Le Sac, son autrice qui en signe texte et image, Emma Adbogue. L'album est traduit du suédois par Catherine Renaud pour les éditions Cambourakis. Il paraît demain.
Et en effet, Mathilde, je crois que je vois de quoi vous parlez en ce qui concerne les enfants incapables de jeter, mais comment la chose est abordée dans cet album ?
Le livre raconte l'histoire de deux sœurs dont l'aînée est la narratrice. Alors qu'elles rentrent un jour d'un week-end passé chez leur mamie, elles découvrent avec effroi que pendant leur absence, leurs parents ont fait du ménage. Malgré les maladroites dénégations de ces derniers, les petites repèrent immédiatement que tout est trop vide, trop aligné. Elles flairent l'anguille sous la roche et aperçoivent, posé là dans un coin, le sac. Soit une énorme masse noire, un sac poubelle plus grand qu'elles deux. Il est gros, il est lourd, mais ni une ni deux. Elles le montent dans leur chambre et commencent à en vider méthodiquement le contenu. Les parents protestent, jurent qu'il n'y a rien d'important là-dedans, qu'un fatras de bricoles cassées, des saletés, de la camelote, des choses avec lesquelles vous ne jouez plus, dit la mère. Rien n'y fait, c'est parti pour un grand déballage. Des bricoles cassées, les deux couvercles importants qu'on avait perdu, de la camelote, les petits bouchons, les lunettes de natation sans verre, la ceinture à clochette trop petite mais qui sert à d'autres choses, la cuillère spéciale pour nourrir les poupées que papa croit cassée mais qu'on utilise tout le temps, la gomme préférée, la collection d'emballages de bonbons, la tête de la petite sirène en Lego, le bras de la poupée Barbie, la petite boîte à pastilles avec du sable de graisse qu'on avait trouvé sur un parking devant chez le dentiste, et les deux enfants de replacer tous les objets sur leurs étagères. Alors qu'elles croient avoir vidé l'essentiel du sac, un dernier coup d'œil en son fond, leur fait réaliser que le pire était encore à venir. Cousinou, vous avez jeté Cousinou. Cousinou est un bout de bois, en apparence banal, mais qui ressemble pour de vrai à un vrai bébé. Cousinou a été leur cousin tout l'été, un bébé cousin dont elles se sont occupées. Résignés, comprenant qu'ils ont perdu la partie, les parents redescendent au salon, tandis que les deux sœurs restent dans leur chambre et placent délicatement Cousinou dans un berceau. « Il manque un truc, dit la grande. et sa petite sœur d'aller chercher le sac poubelle vide, entre-temps redescendu au salon, et d'en faire une magnifique couverture pour le bébé bout de bois. Le sac venant donc s'ajouter dans une jolie pirouette finale à la cohorte des objets dont les fillettes ne voudront pas se séparer.
Et alors à quoi tient la saveur toute particulière de cet album selon vous, Mathilde ?
Sa grâce tient d'abord, je crois, à ce qu'il est raconté du point de vue des enfants dont la voix, les préoccupations, le style sonnent juste. La langue qu'Emma Adbogue invente est merveilleuse à ce titre, en plus d'être drôle. Très juste aussi et en adéquation parfaite avec le propos, le style de ses dessins. Elle utilise le crayon de couleur et la peinture et invente un trait qui a un air de crayonné enfantin, comme si les images aussi avaient été composées par les fillettes. Or, il n'y a rien de plus difficile, on le sait bien, à faire en réalité qu'un dessin à la façon d'un enfant. Les pièces de la maison sont ainsi représentées comme le terrain de jeu qu'elles sont pour ces gamines. Et c'est au fond le véritable sujet de cet album, comme de tous ceux de son autrice, cette extraordinaire capacité qu'ont les enfants à appréhender espace et objets comme des terrains de projection pour le rêve et pour le jeu. Cette imagination qui fait qu'ils préfèrent souvent l'emballage aux jouets que vous leur offrez. Le sac paraît demain, je vous invite à lire et à découvrir aussi les précédents opus de cette autrice, tous parus en France chez Cambourakis, et tout particulièrement Le Repère, qui avait été publié en 2021 en France, soit l'histoire d'un trou dans une cour de récré que les élèves investissent comme un endroit magique. J'ai beaucoup pensé à sa lecture au merveilleux documentaire de Claire Simon, Récréation, description aussi fine que bouleversante de la façon dont les enfants investissent une cour d'école de leur imaginaire pour en faire ce que Michel Foucault appelait une hétérotopie, une utopie incarnée dans l'espace et dans le temps. Je dédie cette chronique à tous ceux et toutes celles qui rangent pour mieux réempiler, retrouver les objets oubliés et s'amuser avec eux. Peut-être bien que cette manie comporte elle aussi sa part d'utopie.
On ne pourra plus jamais dire que votre bureau est arrangé, mal rangé. Voilà. Merci beaucoup. Votre chronique Lecture Jeunesse est à retrouver sur franceculture.fr. Il y a d'habitude une question d'auditrice, j'avoue qu'on n'a pas eu le temps de la passer, mais c'est Mathilde aussi qui vous demandait, Lamira Mahroja. Déjà, elle vous disait que ça lui avait permis, votre livre, elle-même, de s'orienter dans sa propre histoire de France et de s'orienter dans la méconnaissance de l'histoire, notamment coloniale. Mais elle vous demandait si vous, au sortir de l'écriture, vous aviez trouvé un petit peu votre chemin dans le brouillard.
C'est marrant parce que récemment, j'ai beaucoup pensé à si on posait la question pour qui est-ce que j'avais écrit ce livre, et j'ai vraiment pensé j'ai pensé à moi quand j'avais 20 ans. J'ai pensé que j'aurais...
Et du coup, à vous, jeune personne, désirant écrire, jeune Algérien arrivé en France.
Quand j'avais 20 ans, je désirais pas spécialement écrire, j'avais plutôt fait des films, etc. Mais je me posais des questions assez profondes là-dessus et j'ai eu le sentiment que c'était pas si facile, quoi, de trouver son chemin. J'étais assez paumé, en vrai. Et c'est vrai que les réponses que j'essayais de chercher auprès des gens qui m'entourent m'avaient un peu plongé plutôt dans le désarroi plutôt qu'autre chose. Et donc, si ça peut orienter, si ça peut donner des clés au moins pour s'orienter un peu, je serais très heureux.
On finit toujours en musique. Vous citez à plusieurs reprises James Baldwin dans votre livre. Donc on a pioché dans un livre de Baldwin, Si Beale Street pouvait parler, paru en 1974 et ici traduit par Magali Berger. Nous rions. Daniel redevient sérieux, son regard se perd, soudain, très loin. Pauvre Billy, dit-elle. Pauvre Billy, dit-il. Elle aussi lui en ont fait baver. Mon vieux, dit Fanny, l'essentiel c'est d'avancer jour après jour. Si tu y penses trop, t'es foutu et tu peux plus avancer du tout. À table, je dis. J'ai préparé le plat préféré de Fanny. Des travers de porc avec du cornbread et du riz, de la sauce et des petits pois. Fanny met sur le tourne-disque « What's going on » de Marvin Gaye. « Peut-être que Tish peut pas grossir, dit Daniel au bout d'un moment. Mais toi, c'est sûr que tu prendras du poids. Ça vous ennuierait si je passais vous voir plus souvent ? Disons, vers cette heure-ci. Tu seras le bienvenu, dit Fanny, en me lançant un clin d'œil. Tish n'est pas une beauté, mais elle sait se débrouiller avec les casseroles. Je suis heureuse d'apprendre que je suis bonne à quelque chose, je réponds. Et il me lance un nouveau clin d'œil et attaque un travers. Merci beaucoup, Lamine Amarhodja, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
La partie immergée de l'iceberg, éloge du GPS algérien, préfacé par Todd Shepard, apparu aux éditions Motif et Terrasse. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Au son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger, à la réalisation Vivien Demeyer. Et on souhaite la bienvenue à Julie Gastal, qui s'installe avec nous au Book Club pendant 6 mois.